Le droit et nous, dans le plus de la grande matinale sur Africa Radio.
Le droit et nous, violence conjugale et esclavage moderne, quels sont les droits des victimes? La suite de notre dossier que nous avons entamé mercredi dernier. Les violences conjugales continuent de faire des victimes et les autorités comme les acteurs sociaux s'engagent à réfréner et à réprimer les conjoints violents. En France, un Grenelle des violences conjugales a été lancé par le gouvernement le 3 septembre dernier pour alerter l'opinion sur ces abus entre conjoints et pour prendre des mesures qui s'imposent. Nous continuons d'aborder cette question dans le droit et nous afin d'informer les auditeurs sur les sanctions encourues par les auteurs de violences conjugales et d'informer les victimes sur leurs droits, qu'il s'agisse de violences physiques ou psychologiques. Nous invitons aussi les auditeurs à continuer les échanges fructueux sur cette problématique et à nous dire ce qu'ils pensent des questions suivantes. Première question, la notion de viol est-elle acceptable dans le couple? La polygamie peut-elle être considérée par la première épouse comme une violence psychologique? Ne faut-il pas tolérer la polyandrie dans les sociétés où la polygamie est un droit pour l'homme? Aliutal, bonjour et bienvenue.
Bonjour Phil.
Ah, des grandes questions.
Oui, bonne question en plus.
Alors, pour continuer l'émission entamée la semaine dernière, pouvez-vous expliquer aux auditeurs les possibilités offertes aux immigrés victimes de violences conjugales en France d'obtenir un titre de séjour?
Oui, effectivement, je pense que préalablement, il y a lieu donc, de conclure ce qu'on avait dit, notre propos de la semaine dernière, en insistant sur le fait que si vous êtes victime de violences conjugales, comme nous l'avions dit il y a un an, il faut prendre la précaution de garder des preuves, des traces des harcèlements, que ce soit par des SMS, par des photos, des blessures, des témoignages de voisins, des certificats médicaux, et aussi avoir le réflexe, si vous êtes dans un pays où il y a des numéros de téléphone dédiés, d'appeler automatiquement ou d'appeler les urgences. Il peut y avoir des traces qui permettront de remonter à l'information, qui permettront d'attester que vous avez un moment été victime donc, de ces harcèlements, de ces violences conjugales. En France, par exemple, il y a un numéro qui s'appelle qui est le 3919 ou bien le 08 plus victime. Vous mettez victime, donc suivant la tablette que vous avez, vous tapez 08 et ensuite les chiffres qui correspondent à victime avec S. Et aussi, donc, vous pouvez faire la géolocalisation avec un proche. Maintenant, avec les téléphones portables, vous pouvez l'avoir. Et dans certains pays, il y a des téléphones qu'on vous donne, comme en France aussi, le téléphone qu'on appelle le téléphone grand danger.
Ouais.
Sinon, avec la géolocalisation...
Le téléphone grand danger.
Grand danger. On va vous donner ça et vous êtes tracé. Et si votre bourreau vous suit, on peut le repérer indirectement à travers vous, votre géolocalisation. Aussi, poser une main courante systématiquement quand il y a une première violence. En général, les violences conjugales ne viennent pas d'un coup. C'est une répétition d'harcèlement, de petits actes qui vont de petit en grand, ainsi de suite, jusqu'à devenir une routine. Et on a du mal maintenant à sortir de cette routine de violence. Parfois même, il y a des gens qui l'acceptent, qui pensent que ça relève de la normalité, que dans tous les couples, c'est comme ça que ça se passe, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. Donc, il faut éviter de tomber dans ces habitudes de violence, ça veut dire cette routine-là. Dès la première violence, avoir le réflexe d'aller à la police, au commissariat, à la gendarmerie, de faire une main courante. Si c'est assez grave, il faut porter plainte. Et donc, même si vous ne pouvez pas porter plainte, écrivez quand même. Si parfois on refuse d'enregistrer votre plainte parce qu'on considère, on estime, le ministère public représenté par la police ou la gendarmerie estime que ce n'est pas assez grave, vous pouvez écrire au procureur en recommandé avec avis de réception. Lui, par contre, il ne peut pas négliger votre requête, parce que c'est du pénal. Ça veut dire que quand il y a une transgression de la loi pénale, il doit investiguer pour voir s'il y a des éléments de preuve qui nécessitent à ce que l'action publique soit enclenchée. S'il ne le fait pas, sa responsabilité, la responsabilité de l'État pourrait être engagée.
Alors, Aliutal, permettez-moi de vous arrêter deux secondes. Je voudrais évoquer un cas de figure. Si on est face à une violence psychologique et verbale et qui finit par aboutir à une violence physique d'un des conjoints, comment peut-on réagir?
Je n'ai pas compris. Si on a une violence, plutôt.
Si on est face à un cas de figure, violence verbale et psychologique.
Psychologique, d'accord.
De la conjointe, et le conjoint finit par agir physiquement.
Oui, alors, là, c'est une question très intéressante, parce qu'il y a des gens qui peuvent penser que oui, mais c'est elle qui m'a insulté, c'est pourquoi je l'ai giflé. On ne peut pas se faire justice soi-même. C'est un principe de droit. Si on vous a fait mal, et dans un système de droit, il appartient à l'État, à travers la justice, de dire si l'autre vous a blessé ou pas. n'appartient pas à vous-même de régler le problème. Mmh. Vous devenez coupable parce qu'elle, elle serait coupable quand même si vous apportez la preuve de ce qu'elle a fait. Ça veut dire de violence verbale, de violence psychologique. Vous serez en même temps coupable de violence physique. C'est deux choses différentes. L'une n'explique pas l'autre du tout. Il faut faire très attention parce qu'effectivement, il y a des gens aussi, par exemple des hommes, qui laissent passer ces situations où la femme continue d'injurier, de diffamer, donc ouais, de blesser.
Et
qui finalement,
pas.
Inconsciemment, même peut-être instinctivement, on se sent blessé dans son amour propre. Et comme on dit, l'homme, à un certain niveau de révolte, succombe à la violence. Même le chat, le plus cool, le plus zen, comme le chat des Égyptes qui est bloqué,
il aura tort de toutes les façons.
Ses griffes. Il aura tort s'il frappe. De toute façon, dans tous les cas de figure, quand vous frappez quelqu'un, vous avez tort. Mmh. Personne ne doit frapper personne. Le droit à l'intégrité physique est un droit fondamental qui ne souffre d'aucune exception à part la puissance publique qui peut l'exercer si, par exemple, on vous met en contrainte parce qu'une décision de justice a été prise, on vous met en prison. Aucune autre personne ne peut vous contraindre physiquement. Donc ça, effectivement, c'était une bonne remarque et un bon conseil à donner. Et il faudra aussi dire que même si vous retirez par la suite votre plainte, le procureur a la prérogative de continuer. Donc, l'affaire, ça veut dire que si on estime que vous avez frappé quelqu'un, là aussi, c'est un conseil à donner. Les gens peuvent s'énerver, aller porter plainte. Si ce n'est pas assez grave, ne le faites pas. Parce que le procureur, lui, même si après la famille intervient, on appelle depuis Yopougon, depuis Bamako, ah ouais, vous savez, c'est un couple, c'est normal qu'il y ait des problèmes comme ça entre la dent et la langue, il y a toujours des conflits, des contentieux, mais ça finit par se réparer. Le procureur n'entend pas cela. Mmh. À partir du moment où vous avez commis une transgression pénale, vous causez tort à deux individus, à la fois la victime, mais la société. Vous êtes la victime, vous pouvez vous rétracter de votre plainte, mais vous n'avez aucune prérogative pour dire au procureur d'arrêter l'action contre le mal qu'on a fait à la société. Là, il appartient au procureur de le faire. Donc, il faut faire très attention à ce niveau. Et si vos mains courantes ne donnent pas lieu à une convocation, comme je l'avais dit, j'insiste beaucoup, écrivez au procureur. Ce sera une bonne preuve. Et enfin, contactez une association parce qu'il y a des associations qui accompagnent les victimes des violences conjugales qui peuvent vous informer sur l'étendue de vos droits et qui ont de bons juristes qui peuvent vous conseiller en amont comme à l'aval. Au lieu d'aller immédiatement, par exemple, prendre un avocat pour des questions comme ça, je veux dire, la procédure, quand je dis avocat, l'avocat, il peut conseiller, mais parfois, il est plutôt dans le contentieux. Mais si on peut régler la question sans le contentieux, c'est encore mieux. Mmh. Donc voilà, c'était quelques précisions concernant les droits et les précautions qu'on doit prendre si on est victime de violences conjugales.
On va peut-être prendre un auditeur qui attend. Allô, allô, bonjour.
Allô, allô, bonjour.
Bonjour, c'est monsieur.
Bonjour, Nagadev Moussetal, je voulais poser une
bonjour,
question.
Bonjour, Nagadev, magnifique.
Effectivement, sur ce côté-là, je reviens sur une question que je vous pose, parce que disons qu'il y a des femmes qui sont narcissiques, paranoïaques, comment elles approprient les enfants à eux, elles se comprennent, elles écartent le mari, ils violentent même le mari, sous prétexte que ce n'est pas un homme, comme nos traductions coutumes. Comment il faut faire donc? Ce qui a été dit tout à l'heure, le droit, c'est pour les femmes, mais pour les hommes. Vous croyez que c'est qu'il n'y a que les hommes qui sont violents? Et psychologiquement, il y a des femmes, je ne suis pas un philosophe, il y a des femmes qui sont narcissiques, paranoïaques, qui cherchent que leur intérêt, qui approprient les enfants à eux, qui rentrent en France pour les droits, tout simplement. Ce n'est pas le jugement, mais c'est une réalité. Et pour les hommes aussi que je demande.
Oui, monsieur, tout ce qu'on a dit, c'est valable pour la femme comme pour l'homme. D'ailleurs, on a l'habitude de le dire en taquinant, il y a des hommes qui sont violentés, des hommes qui sont victimes de violences conjugales. Et on a dit que la violence, elle n'est pas que physique, elle peut être psychologique, elle peut aussi être sexuelle. Je veux dire, maintenant, la loi évolue.
Difficile à prouver, hein, une violence psychologique.
Oui, mais il y a des indices. Par exemple, la femme qui s'énerve, qui vous insulte, vous enregistrez, qui vous envoie des SMS de menaces. Il y a des voisins qui peuvent en attester. Effectivement, ce sont des indices concordants qui peuvent vous permettre de montrer que vous êtes victime en tant qu'homme de ces violences-là. Et surtout, ne pas attendre à ce que le mal vous mette dans une situation délétère, une situation très grave, très dégradante, qui fait que vous allez agir par la violence physique. Vous serez coupable, comme je l'ai dit tout à l'heure à M. Phil le Montagnard. Donc faites très attention. Tout ce qu'on a dit, ce n'est pas que pour l'homme. Maintenant, il y a des femmes même qui battent physiquement leur époux.
Qui tiennent tête?
Qui battent carrément, qui donnent des coups.
Qui donnent des coups?
Ah oui, il y a des femmes fortes qui donnent des coups. Il y a des hommes gringalets comme moi qui se retrouvent avec une femme assez balèze et qui sont victimes de violences conjugales et qui n'osent pas le dire parce qu'il y a la fierté ça à l'intérieur. De dire
j'ai été frappé par ma femme.
C'est une situation rare, mais ça existe. Mais la question que l'auditeur soulève, c'est le cas de violences psychologiques. Et quand ça arrive, prenez la précaution soit de régler ça à l'amiable. Si vous ne pouvez pas, allez porter plainte carrément contre votre femme pour que ça s'arrête. Donc ça, c'est la réponse qu'on vous donne. Il n'y a pas de discrimination dans la loi. Effectivement, quand on voit la tendance au niveau des médias, on a l'impression que ça ne concerne que les femmes. Quand on voit même, par exemple, un pays comme la France, on parle du Grenelle sur les violences conjugales. Les gens utilisent le mot conjugal, mais c'est des violences contre les femmes. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui sont violentées et parfois même tuées par leur conjoint. Mmh. Ils parlent de féminicide, comme on l'a dit, mais il y a des hommes aussi qui sont victimes par ricochet. Il y a des gens qui se sont donné la mort suite à des violences psychologiques. Donc, l'effet qu'on a vu a une cause. Le suicide n'est que l'effet d'une violence dont la cause est la violence psychologique. Mmh. En ce sens-là, la femme a été responsable de cette mort qui a été donnée par l'homme. Donc effectivement, les violences, ça concerne tout le monde. Et comme je le disais, donc, que l'époux, par exemple, si vous avez par exemple un immigré qui est par exemple esclave de violences modernes, un immigré, parce qu'on a voulu parler de ce cas de figure-là.
Exactement, hein, si l'immigré perd son titre de séjour malgré qu'il ait été victime de violences conjugales, y a-t-il un moyen pour lui de régulariser sa situation administrative ?
Effectivement, là c'est le cas très pertinent d'escroquerie sentimentale qui peut arriver. D'escroquerie sentimentale, on l'a étudié à des fins migratoires.
Et cela arrive beaucoup en Europe.
Ça arrive beaucoup en Europe, c'est dans tous les pays européens, dans les pays américains, mm-hmm. où le conjoint qui a permis à l'autre conjoint d'avoir un titre de séjour le tient en haleine et le tient en puissance. Mm-hmm. L'autre va faire ce que le conjoint, je dis le conjoint, ça peut être la femme ou l'homme, veut. On a vu des cas de figure où c'est la femme qui a tenu un esclavage moderne, mm-hmm. en violant psychologique l'homme parce que le renouvellement de son titre de séjour dépendait d'elle. Et je donne l'exemple d'un monsieur qui était obligé d'acheter même une voiture à crédit et que la femme menaçait l'homme de ne pas se présenter pour attester de l'effectivité de la vie commune. Parce que pour renouveler son titre de séjour, par exemple, en France, il faut une vie commune effective et affective. Mm-hmm. Ça veut dire que vous dormez à la fois sous le même toit et qu'il ne s'agisse pas d'un mariage fallacieux, d'un mariage de complaisance. Ça veut dire d'une coquille vide. De mariage gris.
D'un mariage gris, ouais.
Voilà, comme l'expression qu'on a utilisée avec...
Mariage blanc aussi, on le dit.
Mariage blanc aussi. Ça veut dire que le mariage n'est pas du tout consommé.
Exact.
Voilà, c'est juste qu'il y a la cousine Ali Outal qui a sa cousine là, Fatou Sall qui est à Bamako et qui se marie juste pour permettre à Ali Outal d'avoir des papiers. Mm. Et on ne se connaît même pas, on ne s'est même pas vu. Le mariage a été célébré. Effectivement, j'ai un titre de séjour. Mais là, il y a moins de chances que ça marche parce que maintenant, la présence physique est importante. La vie commune, elle est importante. La vie commune affective est importante. Mm. Donc, on est passé du mariage blanc qui a peu de chances de produire un effet sur le droit à séjour au mariage gris. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'escroquerie sentimentale, certes, est réprimée, par exemple, dans un pays comme la France, par le Code des étrangers, en l'occurrence par les articles L211-2 et R311 du Code des étrangers qu'on appelle le CCEDA. Ça veut dire que si vous vous mariez intentionnellement pour avoir un titre de séjour juste pour cela, c'est réprimé. À la fois, vous risquez une sanction pénale, mais vous risquez de perdre le titre de séjour. Mmh. A contrario, si on vous fait de l'escroquerie sentimentale, on vous impose un certain esclavage, on vous dit que si vous ne donnez pas certaines choses, si vous ne faites pas certaines choses, si vous n'avez pas un tel comportement, je ne serai pas là pour le renouvellement de titre de séjour. Ça aussi, c'est sanctionné par la loi et ça peut être appréhendé même comme de la violence psychologique. Par exemple, il y en a même qui menacent de divorcer carrément ou bien de faire une dénonciation calomnieuse. Mmh. On vous dénonce pour vous amener à perdre votre titre de séjour. Et ça, c'est arrivé. C'est un cas qu'on a traité avec notre association. C'était en banlieue parisienne. Un jeune Guinéen qui est marié à une jeune Guinéenne de nationalité française et qui, parce qu'il y a des différends, a enclenché une démarche de divorce exprès. Vraiment, a promis qu'elle va divorcer pour empêcher au monsieur de renouveler son titre de séjour. Mmh. A pris une avocate qui a démarré la procédure pour le divorce. Et carrément, avec les conséquences sur la garde de l'enfant qu'ils avaient, les conséquences sur l'autorité parentale et aussi le maintien du domicile qu'elle voulait garder elle-même. Et la finalité, c'est que le monsieur perde son titre de séjour et devient sans papier. Ça veut dire qu'on détruit la personne. Mmh. À la fois, on l'empêche de voir ses enfants, d'avoir l'autorité parentale, d'avoir le domicile conjugal, d'avoir un titre de séjour. Ça, c'était vraiment méchant, alors qu'à la base, il n'y avait pas une tension qui justifiait tout cela. Mmh. Et nous, on l'a conseillé. Parce qu'après, il y avait aussi des contraintes, il y avait des abus, il y avait des antécédents. Et il y avait des promesses que le monsieur a gardées par SMS. Et sur cette base, on a pu faire un contre-mémoire au niveau de l'association, juste pour le défendre, et que cette personne s'est rétractée à la fin. Et donc là, il faudra savoir que si on vous menace de vous faire perdre votre titre de séjour, n'ayez pas peur du tout. Au contraire, c'est un délit.
Voilà. Et nous allons... Oui, oui, Alutel.
Oui, je voulais juste rajouter que... Donc, dans le Code des étrangers, effectivement, il faudra... Ce que je viens de dire, ça repose sur la base de l'article L313-11, quatrièmement, du Code des étrangers, qui exige que la vie commune soit effective et effective, certes, comme on l'a dit, mais il faut que les étrangers en France sachent que depuis la loi du 4 août 2014, retenez bien cela, qui a modifié le terme de l'article L313-12, il est interdit au préfet de refuser le renouvellement de votre titre de séjour si la rupture de la vie conjugale est motivée par des violences physiques ou psychologiques. Ça, c'est très important. On ne peut pas refuser le renouvellement de votre titre de séjour s'il y a une violence physique ou psychologique.
Nous allons prendre un auditeur. Allô, allô, bonjour. Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous allez arrêter votre poste, hein, sinon on vous donne un carton jaune.
Oui, j'ai été en poste.
Oui, nous vous écoutons, c'est bon, monsieur.
Allô.
Oui, allô, nous vous écoutons, vous êtes en direct.
Oui, donc, merci de m'avoir passé la parole.
Allez-y.
Parce que j'allais intervenir la fois passée, mais j'avais pas eu le temps.
Vas-y.
Et vraiment, j'étais très satisfait parce que, en fait, quand je vous ai entendu, vous êtes en train de parler des femmes et des hommes. Mmh. Mais ça, c'est la première fois que je vois qu'on parle de la violence conjugale et quelqu'un qui parle des hommes et des femmes. Parce que d'habitude, on victimise toujours l'homme.
Oui.
Parce que je vais vous donner même un exemple sur le Pénel qui est passé le 3 septembre.
Mmh.
J'ai même suivi que quand on condamne, quand on donne les peines, c'est plus on indexe l'homme. On n'indexe pas la femme parce que j'ai entendu un truc où s'il y a un homme violent contre son ex ou sa femme, son ex-femme, on lui tire la garde des enfants.
Mm-hmm.
Pour la femme qui est violente, on n'a même pas parlé de ça.
Oui. Donc,
par exemple, moi je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi personnellement, moi j'aime pas la violence. Quelle que soit, même pour vous dire, même je regarde même pas les combats de boxe, tout ça, parce que j'aime pas la violence. Mais j'ai mon fils. Et mon ex, parfois j'arrive, je peux faire même un mois, je ne vois pas mon fils. Mais pourtant elle n'a pas le droit.
Ah oui.
Et j'appelle même la police qui vient, oui monsieur, parce que vous n'avez pas pour l'instant, vous n'avez pas le jugement. Mais alors, j'ai même amené un article qui dit, dans l'autorité parentale, du moment où il n'y a pas encore le jugement, personne n'a le droit de se préparer de l'enfant. Donc vous avez le même droit. Et même j'avais montré l'article à la police, ils ne savaient même pas quoi dire. Mais mon ex était là en face de moi et la police n'arrivait pas à la convaincre qu'elle devait me donner l'enfant. Donc après un mois, moi sans voir mon fils, mais ça m'énerve.
Oui,
et ça peut t'amener à faire quelque chose ou ça peut te pousser à faire quelque chose.
Oui, et c'est ce qu'il ne faut pas faire, oui. Oui.
Je voulais aussi dire, par exemple, l'autre fois, vous avez donné même un exemple d'un homme où la femme lui a demandé d'acheter une voiture pour renouveler ses papiers. Mais ça, c'est des choses qu'on n'en parle pas, même dans les associations où tu suis les violences conjugales. Mais moi, je pense que c'est du fanatisme. C'est du fanatisme qu'il faut. C'est du fanatisme envers les femmes.
Très bien.
Parce qu'ils pensent que dès que toi tu vas parler, oui, une femme avait fait ceci, ils vont hurler sur toi, ils vont crier sur toi, oui, le monsieur il est violent, le monsieur il est. Et comme je ne comprends pas.
Oui, effectivement, monsieur, je suis parfaitement d'accord avec vous. Moi je partage à titre personnel ce point de vue, alors que je suis contre les violences faites aux femmes. D'ailleurs, la première fois que j'ai appris le droit, dès la première année, on apprend le droit de la famille. Et j'ai fait une tournée dans mon pays avec une ONG américaine pour informer sur les droits de la femme. Comme je le disais la dernière fois, tant qu'on parlait des choses qui arrangent les hommes étaient contents. Mais quand je disais, par exemple, que la répudiation en tant que telle était pour moi une aberration, parce qu'on permet à un homme, sur la base d'une culture islamisée, de dire à la femme « dégage, dégage, dégage ». Dès qu'on dit ça trois fois, avant, le divorce était consommé. Et effectivement, en ce moment-là, moi, j'étais choqué et je faisais une tournée pour informer les femmes sur leurs droits. Cela ne m'empêche pas d'exiger à ce qu'il y ait de l'équité. Défendre la femme ne veut pas dire renverser la tendance. Ça veut dire que la femme était opprimée maintenant. Pour que la femme ait ses droits, il faut que l'homme soit opprimé. Et ça, c'est hallucinant et c'est une tendance qui est en train de se passer en France, par exemple, dans un pays comme la France. Et les gens ont peur. Dès qu'un groupe a été victime antérieurement, il y a une peur sociétale généralisée qui permet à ce groupe de maintenant de dire et de faire n'importe quoi. Jusqu'à ce que maintenant, il y ait des révoltes. Ça, c'est un danger qui est en train de nous guetter dans plusieurs pays. Et donc là, effectivement, il faudra faire attention. Pour votre cas, maintenant, ce que je vous conseille, c'est de saisir le juge aux affaires familiales pour que votre droit de visite, c'est d'abord le droit de visite qui est le plus important. Ensuite, le droit d'exercer l'autorité parentale soit respecté jusqu'à ce qu'il y ait une décision définitive. Il ne faut pas vous énerver, il ne faut pas aller à la police perdre votre temps. Si rien n'est fait, seul le juge aux affaires familiales peut prendre une décision provisoire et ce juge le prendra. C'est le conseil que je vous donne. D'accord ?
Voilà, nous avons perdu cet auditeur à l'hôtel qui va certainement nous rappeler. Je rappelle que vous avez aussi la possibilité d'envoyer des messages au 06 16 05 45 51 si vous êtes face à cette situation et que vous désirez rencontrer l'association d'Aliutal. 06 16 05 45 51. Envoyez donc un SMS de préférence. On prend un autre auditeur. Allô, allô, bonjour.
Oui, allô.
Oui, bonjour.
Oui, c'est encore moi. Parce que
oui, nous avons été coupés. Nous vous écoutons.
Ouais. Oui, j'ai bien suivi vos conseils, mais je voulais aussi poser une question. Parce que tout le temps quand on parle de la violence conjugale, tout ça, parce que comme je disais, on parle souvent, c'est les hommes qui sont violents. Mais moi, je voulais savoir pourquoi, parce que je pense, ça c'est mon avis, je pense que la bonne question, elle n'est pas traitée. La bonne question pour moi, pourquoi l'homme devient violent ? Pourquoi l'homme devient violent ? Parce que moi, je pense qu'un homme conscient, honnête, qui drague d'abord sa femme, qui épouse sa femme, et un moment, il devient violent. Pourquoi ? Ça, je pense que pour moi, c'est la bonne question d'abord à traiter. Et dans les associations, là, les gens qui s'occupent de ça, ils ne parlent jamais de ça. Pour eux, c'est d'un coup, l'homme il est devenu violent. Non, il faut savoir pourquoi il devient violent. C'est comme si vous caressez un chien qui vous poursuit et on te condamne parce que tu as caressé le chien. Mais oui, le chien me poursuivait, il allait me mordre.
Donc, d'accord.
Moi, je pense que. Je ne sais pas si vous avez la réponse.
Oui, donc je vais donner
un bien compris. En fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens, oui, à la base, ils ne sont pas du tout violents. Mais certains actes posés par la femme poussent à ces derniers de se comporter de manière assez répréhensible.
Oui, et puis la question, elle est globale. La violence, elle n'est pas faite qu'aux femmes. Elle peut être faite à l'égard de notre personne, de notre homme. Il y a des hommes qui se battent, je veux dire. La question est de savoir pourquoi l'être humain devient violent. On ne naît pas mauvais, on le devient. C'est la société, exact, qui nous pervertit. Mais là, ce n'est pas la question de droit qui se pose. Après, il y a des questions de psychologie, de sociologie, de tout. Mais cela ne justifie pas. Sous l'angle du droit qui nous concerne, rien ne justifie la violence. Vous comprenez ? Même s'il a un antécédent, son papa battait sa femme, il le voyait. Il y a des gens, c'est la raison. Il y a des gens qui sont frustrés. Il y a des gens qui sont jaloux, tellement jaloux qu'ils battent. Mm-hmm. Il y a tellement de raisons possibles. Mais aucune des raisons ne justifie la violence au regard du droit. Je parle que sous l'angle du droit. Après, maintenant, il peut y avoir des analyses pour justifier pourquoi une telle personne. Mais pour moi, personnellement, aucune de ces analyses ne justifie qu'on batte quelqu'un d'autre. Voilà, l'intégrité de la personne physique est un droit sacré, fondamental. Il ne faut pas y toucher. Moi, c'est ce que je pense à titre personnel. Juste pour revenir sur la question de la privation volontaire de titre de séjour. Si ça vous arrive, ça peut être considéré comme une violence psychologique. En général, le problème se pose souvent dès la première année de la présence de l'étranger en France qui est venu dans le cadre soit d'un regroupement familial, s'il s'agit d'un étranger qui dispose d'un titre de séjour, ou d'une réunification familiale, s'il s'agit d'un Français ou bien d'un étranger qui a été naturalisé ou bien qui a acquis la nationalité française. Or, pour cette première année, ce conjoint est dans une précarité administrative car il ne dispose que d'un visa long séjour valant titre de séjour. Donc, le risque de chantage et d'esclavage domestique est plus élevé. Il faut aussi retenir que si vous n'avez pas fraudé pour conclure le mariage, si votre mariage n'est pas annulé et si vous ne constituez pas une menace à l'ordre public, vous ne perdrez pas votre visa long séjour qui vaut titre de séjour pour la première année et qui a été visé par l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Même si votre conjoint qui vous a fait venir en France, donc vous a éjecté de la maison, ça veut dire qu'il vous met dehors, que ce soit l'homme ou la femme. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous retirer votre visa et le renouvellement de votre titre de séjour ne peut pas être refusé. C'est ce que prévoit en l'occurrence l'article L211-2-1 du Code des étrangers. Autre chose avant de prendre les auditeurs, si vous n'êtes pas séparé, mais que vous sentez que le serpent tapis dans l'ombre se prépare à mordre, vous le sentez carré, parfois on le sent venir, ouais, comme l'a dit un auditeur, c'est des injures, des petites, on sent, exact, que ça va venir, ça, ouais, va chauffer, comme on dit souvent, comme dirait mon cousin de Yopougon, ça va chauffer mon frère,
ouais,
il sent carrément ça va chauffer. Je vous conseille de faire un changement de statut pour obtenir un titre de séjour de type salarié.
Ouais.
Si vous travaillez régulièrement dans le respect des dispositions de la loi, en l'occurrence les articles R313 et les articles R52-21 du Code des étrangers et du Code du travail, les deux, si vous êtes dans ce cas de figure, vous pouvez changer de statut. Je vais insister sur ce point. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont se sentir désemparées ou bien parfois qui ont définitivement perdu le droit au séjour. Parce qu'effectivement, la préfecture a estimé que, quelle que soit la raison, pour nous, on a constaté qu'il n'y a plus de vie commune.
Bye.
Vous êtes en décohabitation. L'autre vit maintenant à Marseille, vous vivez à Paris. De sur quoi, il n'y a aucun élément qui atteste qu'il y a une relation sentimentale. Mais techniquement, la préfecture a le droit de ne pas renouveler votre titre de séjour.
Exactement.
Si vous ne donnez pas la preuve que cette séparation n'est pas de votre fait.
Ouais.
Ça, c'est un problème qui peut arriver. Néanmoins, il vous appartient de prendre la précaution. Si vous sentez le serpent venir, de changer de statut.
Exactement.
Si vous êtes là, que vous avez travaillé pendant 12 mois, titre salarié. Si vous répondez à d'autres critères de régularisation, vous pouvez changer de statut.
Alors,
après, on peut y revenir. Je vais y revenir tout à l'heure pour vous donner des conseils.
Exactement.
Parce que la loi le dit très clairement, vous pouvez le faire. Et je l'ai fait pour certaines personnes. Et que la femme qui voulait être méchante s'est rendue compte que le monsieur a renouvelé quand même son titre de séjour. Elle est partie à la préfecture pour dire comment on ne vit plus. Elle a triché pour avoir son titre de séjour. Elle a dit, madame, ne venez pas ici pour ce genre de problème. Ce monsieur a changé de statut.
Ouais.
Elle n'était pas au courant.
Ah,
sa méchanceté
elle
était vaine.
Pas.
La méchanceté était vaine.
On va prendre cet auditeur. Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est monsieur.
C'est monsieur Serge.
Monsieur Serge, nous vous écoutons.
Ouais, je vous appelle parce que, alors, j'ai fait une demande de nationalité.
Mmh.
Et moi, j'ai divorcé légalement et tout. J'ai fait, en gros, les enfants sont, ils étaient avec moi. Et à un moment donné, je suis ma carte à moi. Et la mère est passée derrière pour reprendre la carte parce que les enfants, je les ai ramenés en vacances.
Pour reprendre quelle carte? Je n'en ai pas compris.
La CAF.
La CAF, ok, la CAF. La CAF. D'accord.
Ouais. Et moi, j'ai
la caisse d'allocation familiale. D'accord.
Justement.
Oui.
Et elle est partie derrière, je ne savais pas, et la CAF a tout coupé. On va me couper tous les. Et j'avais d'autres enfants avec d'autres femmes, avec ma conjointe actuelle. Le seul problème, c'est que je ne comprends pas. Ils m'ont demandé pourquoi les enfants, les premiers enfants, parce que la demande que j'ai fait ça avant qu'elle fasse ce qu'elle a fait. Et je voulais savoir pourquoi ils m'ont réécrit le ministère de l'Intérieur. Non, le ministère de l'Immigration, je pense, de l'Intérieur.
L'Intérieur,
ou quoi,
oui.
Ils m'ont écrit que pourquoi, comment on appelle, les enfants sont pas, mes premiers enfants sont pas sur la carte. Et je sais pas comment les répondre parce que j'ai envoyé un courrier expliquant un peu la situation globale du truc. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus de réponse. Donc, je sais pas dans ce cas. Parce que moi, je rentre. J'ai rentré dans toutes les clauses pour la nationalité.
En fait, vous vouliez avoir la naturalisation par décret, pas par mariage.
Par décret.
Par décret. Et on vous a reproché qu'une partie de vos enfants ne figure pas sur vos droits aux allocations familiales que donne la CAF, c'est ça?
Hein? Voilà.
Et que ces droits...
Ouais, parce que elle,
oui, il y avait une privation... Monsieur, je vais résumer la situation.
Oui.
Je vais résumer pour bien comprendre et vous donner la réponse parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, ce que je dis, c'est le cas. Et la suite, c'est que la raison est que c'est votre ex-femme qui a entraîné cela, qui a demandé à la femme cette séparation. On est d'accord?
On est déjà séparés légalement. On a la garde conjointe.
Très bien.
On a une garde conjointe des enfants.
Voilà. Est-ce que le ministère vous a écrit ou bien c'est une décision définitive de régie ou d'ajournement?
Non. C'est le ministère qui m'a écrit. Oui.
Donc, vous n'avez pas encore de décision?
Non, pas finalement.
Donc il n'y a rien de grave. Il faudra juste que vous précisiez tout ce qui s'est passé. Vous montrez carrément que la CAF a le droit de donner les allocations aux parents qui s'occupent effectivement des enfants. C'est ce que la CAF a fait. La CAF, c'est la caisse d'allocation familiale. Donc cela, on ne va pas vous le reprocher. Il faudra l'écrire et donner un document de la CAF. Vous pouvez même aller à la CAF, demander une attestation carrément qui atteste que effectivement les droits ont été affectés aux parents qui s'occupent en réalité des enfants. Ce document, vous allez l'adjoindre au courrier que vous allez écrire à Rezé. Normalement, c'est le ministère de l'Intérieur qui se trouve dans le 44, à côté de Nantes, qui s'en occupe et qui va prendre la décision. Il faut le faire urgemment, donc une lettre bien circonstanciée, montrant que malgré tout, quand même, vous participez à l'entretien des enfants, ce sont vos enfants. L'État vous aide à entretenir vos enfants, mais vous avez une obligation naturelle et juridique de participer à l'entretien de vos enfants. Donc ça aussi, insister dans le courrier de ces deux éléments. Que ce n'est pas de votre chef si les droits de ces enfants-là ont été affectés à leur maman, qui est votre ex-conjointe.
Ouais.
Et aussi que malgré tout cela, vous continuez tant bien que mal à participer à leur entretien. Avec ces éléments, il n'y aura aucun problème sur votre obligation d'entretenir vos enfants pour votre naturalisation. D'accord?
Oui, le seul problème, c'est que la dame, elle a pas des papiers français, elle a des papiers. Donc, elle ne peut pas avoir la carte. Comme elle est partie, comme elle a entendu que. Comme elle a repris les enfants en vacances, elle a entendu qu'elle pouvait avoir l'argent de la CAF. elle est partie derrière, sans savoir que qu'il faut avoir les papiers. Parce que les papiers qu'elle a, elle a les papiers italiens. On n'a pas les papiers français et européens, quoi.
Non, monsieur, ça c'est une autre question, mais vous êtes en train de faire une déduction très rapide. Non, ça ne veut pas dire qu'on a des papiers italiens, qu'on n'a pas le droit de vivre ici. Papiers italiens, ça veut dire elle est italienne ou bien elle a un titre de séjour italien. Titre de séjour ?
Oui.
Ah oui, ça c'est autre chose, ça vous avez raison. Si c'est juste un titre de séjour, il y a un problème. Mais pour vous, la question que vous posez, quel est l'impact de cette situation sur votre naturalisation ? C'est ça la question. Il n'y aura aucun impact négatif si vous faites ce que je vous ai conseillé, d'accord ?
Ok. Voilà, merci beaucoup.
Bon, moi j'ai eu un coup de peur. Merci beaucoup.
Non, il n'y a pas de problème,
beaucoup,
vous pouvez voir sur ça.
Monsieur Serge, on va enchaîner rapidement, plus beaucoup de temps. Allô, allô, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est Sangaré.
C'est monsieur ?
Monsieur Sangaré.
Monsieur Sangaré, bonjour, monsieur Sangaré. Nous n'avons plus beaucoup de temps, monsieur Sangaré.
Oui, moi j'ai un problème, là, je voulais avoir d'abord le numéro de monsieur Tal et puis ensuite expliquer. Parce
alors,
que moi j'ai...
Alors, je vous donne le numéro en direct, hein, 06 16 05 45 51. Il faut donc faire un SMS... Oui. 06 16 05 45 51. Vous envoyez un SMS. Voilà. Merci beaucoup. On va enchaîner avec un dernier auditeur avant de se quitter. Allô, allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, monsieur.
Oui, c'est Ismaël. En fait, je vous appelle concernant mon ex-femme.
Mmh. Allez-y.
Alors, je vous explique. Depuis notre séparation, je vis le calvaire ici, des dépôts de plainte de gauche à droite. Et je vous rappelle que c'est elle qui m'a mis à la porte sur les preuves à l'appui parce que j'avais filmé, j'avais photographié et tout. Mmh. Et elle essaie par tous les moyens de me causer des problèmes. Mmh. Au mois de juin dernier, j'étais parti récupérer mon fils. Et il y a eu des embrouilles verbales entre elle et moi. Et le lendemain, à ma grande surprise, mon avocate m'a contacté pour me dire que madame est en arrêt ITT de 3 jours, je ne sais quoi, que je l'avais violentée, tout ça. Alors que moi, je ne suis pas fou pour la toucher, vu que j'ai une demande de naturalisation en cours.
Et en cours, oui.
Et je travaille... pour une entreprise où on n'a pas le droit d'avoir un casier judiciaire,
oui.
Mais elle essaie par tous les moyens. Donc là, l'enquête a été bouclée, mais sauf que je suis convoqué devant le juge au mois de décembre prochain.
Voilà.
Je ne sais pas comment faire.
Alors, gardez l'écoute, oui, Alutal, en une minute, répondre à
Oui, je ne pourrais pas répondre en une minute. Je pense que la question est très délicate et c'est une question aussi humaine. Je pense que cette personne, il faut lui donner
un
numéro au niveau de l'association. On va essayer de la conseiller pour qu'elle défende ses droits.
Exactement.
Surtout au niveau pénal et au niveau de la naturalisation, qu'elle puisse savoir quels sont l'étendue de ses droits.
Alors, je vous donne le numéro de téléphone, monsieur, hein, si vous avez de quoi noter. 06 16 05 45 51. Je reprends. 06 16 05 45 51.
Et envoyez un SMS en précisant Africa Radio. Donc, comme ça, on pourra le faire au niveau de l'association.
Voilà. Vous précisez tout simplement le droit et nous sur Africa Radio. Vous allez pouvoir écouter à nouveau cette émission, hein, sur le site de la radio africaine, www.africaradio.com. On boucle le dossier à l'Utal ou il y aura une suite?
On va boucler le dossier, juste qu'il y a un élément sur l'asile.
Si 30,
on a
une... 30 secondes.
Non, on va y revenir. Alors, pour anticiper sur ce qu'on appelle l'esclavage moderne, domestique ou bien l'esclavage moderne des enfants, on va y revenir la semaine prochaine. Donc, j'ai tenu 30 secondes. Voilà.
Le droit et nous, dans le plus de la grande matinale sur Africa Radio.